Voilà, parti pour une heure en Palestine cette semaine avec le collectif Marseille-Gaza-Palestine. Et nous commençons, comme vous avez dû l'entendre sur d'autres émissions, avec un hommage à notre ami et camarade Étienne Bastide, parti rejoindre le pays des ancêtres, où il va certainement créer une radio libre qu'il animera, avec peut-être un tirant la chasse au cours duquel pourront s'exprimer tous les résistants et les résistantes de la planète, partis dans un autre monde ou bien ceux venant d'une autre galaxie. Et j'imagine que Étienne sera le premier à animer tout ça. Alors, vendredi, nous irons lui dire dernier adieu, si on peut dire des choses comme ça. En tout cas, nous sommes très émus et il va nous manquer. Il va nous manquer. Comment oublier tous ces dimanches où il appelait pour dire « Est-ce que tu peux intervenir dans Tirant la chasse pour nous parler de la Palestine ?» Pendant des années, il fallait se garer sur le bord de la route quand on partait et puis faire un petit coucou aux auditeurs de Radio Galère avec Étienne qui animait l'émission. Voilà, ciao l'artiste. Et puis, je te dis pas à bientôt, mais on pense à toi. Alors... voilà, on reprend après deux mois au cours desquels beaucoup de choses se sont passées. Ce que nous avons fait, c'est d'abord participer à l'arrivée du bateau Handala, le bateau de la flottille de la liberté. Il faut rappeler que ce bateau devait rejoindre deux autres cargos chargés de personnalités et de nourriture, que ces deux autres cargos sont malheureusement bloqués par les autorités turques dans un port quelque part en Turquie. Les autorités turques qui, d'un côté, prétendent soutenir le peuple palestinien et d'un autre côté, collaborent avec l'État génocidaire. Et là, en particulier, ils bloquent ces bateaux qui devaient transporter plus de 150 personnalités en direction de la bande de Gaza pour briser le blocus. Donc il y a eu le Handala, mais il y a aussi eu toute une histoire autour du Suncoast qui est un bateau qui transporte du fuel brut, du fuel qui est utilisé comme carburant, pardon, pour l'armée israélienne. Et ce bateau s'est trouvé dans les eaux françaises. Il s'est même arrêté à Fos-sur-Mer et depuis, il est pisté et nous continuerons à le pister avec bien d'autres, bien évidemment. Il y a eu toute une action qui a été menée par Stop Arming Israël, par UPM Marseille, par le collectif Solidarité Palestine Marseille, Martigues-Ouessant-de-Berre pour dénoncer l'arrivée de ce bateau qui contribue au génocide et qui transporte du carburant. Alors, on ne sait pas exactement ce qui était dans le port, mais nous allons développer des liens avec M. Castaner, qui est le président du Grand Port de Marseille, de manière à l'informer, et on en parlera peut-être si on a le temps dans l'émission, des risques juridiques qu'il y a à accueillir dans nos ports des bateaux qui peuvent servir à alimenter les génocidaires. Évidemment, il y a toujours les manifestations du dimanche qui durent depuis bientôt 12 mois, bientôt un an. Et puis, il y a eu aussi une collecte d'argent, une participation modeste à la solidarité avec des dons venus d'un peu partout dans notre département. Saluons les amis de Salon d'Istres, de Martigues et de Marseille et d'Aubagne qui ont largement contribué à ce que trois distributions de nourriture, dont la dernière a eu lieu hier, pour à chaque fois plus d'une centaine de personnes sur une zone restreinte à Khan Younis et hier Il y a eu aussi une petite distribution à Deir el-Bala. Et ce sont des nourritures, la nourriture de base. Hier, par exemple, il y a eu du tahine, il y a eu des pâtes, de l'huile qui permettent aux gens de cuisiner un minimum 1 kilo de dattes par famille. Ça permet les dattes sont un élément extrêmement nutritif. Voilà, on continue, on va continuer. C'est difficile de faire passer de l'argent et la France et les banques bloquent tout transfert d'argent. Mais on va continuer et on vous tiendra au courant de ce qui se fait. Alors, la rentrée est un programme chargé au premier trimestre avec une réunion la semaine prochaine du collectif Palestine en résistance élargie pour essayer de coordonner toutes les actions des différentes organisations. Un rendez-vous le 21 septembre à partir de 16h pour la journée internationale de la paix aux côtés du mouvement de la paix. Ça se tiendra à côté de la mairie de Marseille, de la mairie centrale, avec le mouvement de la paix et de nombreuses autres organisations. Et bien sûr, comme chaque semaine, la manifestation du dimanche à 14h à partir de la porte d'Aix. Alors, un petit départ vers Gaza et vers la Palestine avec Sidi qui est à la technique et qui va nous passer l'entretien que nous avons effectué avec Soher Assad, palestinienne de Haïfa, féministe et militante politique. Soher est une avocate spécialisée dans les droits humains. Elle est co-directrice du projet Founding Freedom. Elle collabore avec l'association Rawa, mais a aussi travaillé avec Adala, une ONG spécialisée dans les droits humains, dans le domaine du plaidoyer international. En 2021, elle a travaillé bénévolement pour défendre les détenus palestiniens lors du soulèvement dit de l'unité. Nous l'avons interrogée lors de sa conférence à Marseille le 23 mars dernier, où elle intervenait dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien sur le thème « Les Palestiniens et Palestiniennes de 1948 face à l'apartheid israélien ». Nous l'avons interrogée dans le hall de son hôtel. Alors vous verrez, l'enregistrement est un petit peu bruyant. C'est l'enregistrement numéro 1. Il est un peu bruyant parce qu'il y avait des gens dans le hall qui faisaient du bruit. Et elle nous parle de la ville de Haïfa et de ce que la municipalité de Haïfa tente de faire pour blanchir la politique qu'elle mène. Voilà, on écoute Soher Assad.
I'm a Palestinian feminist and a political activist and I'm a human rights lawyer based in Haifa. Israelis try to promote when it comes to Haifa, which is really to try to create this fake impression that Haifa is the coexistence city. This is part of the Israeli trends and ways to whitewash discrimination, oppression, and crimes committed against Palestinians. Haifa historically was a Palestinian city that was forced displaced in 48. And today, years later, since then, Palestinians are pushed to live in poverty neighborhoods, crowded neighborhoods with poverty, high rates of crimes. The Israeli heavy policing of Palestinian neighborhoods of Haifa aims, first of all, to crack down on the community and a lot of security persecution and political persecution. And I'll give an example. In 2021, May, there was an uprising in Palestine, including in many big cities like Haifa. The Israeli police acted in total brutality, arresting tens of Palestinian protesters, including children. Some of them were kidnapped from the street by police that didn't even identify as police. I'm speaking about kids of 13 years old. I've been a lawyer representing these detainees. I witnessed huge amount of brutality against them. All of this was conducted by the Haifa police and fully supported by the Haifa municipality. So for Haifa municipality, they would create this impression of coexistence without actual existence of Palestinians in Haifa, without actual life conditions. And they will accept it only Palestinians are silenced, are oppressed, including oppressed politically. And when Palestinians raise their voice, they crack down on them and completely crush down that protest, while at the same time not doing anything to improve the living conditions, economically, socially, and in other aspects of life. This is related to the population in Palestinian neighborhood. This is related to the whole population. That's even without starting to speak about the lands and the houses that were lost in Haifa for Israelis, including the fast gentrification in some areas of the city where Palestinians are pushed out of some of their houses that they used to have for years. They're pushed out, the neighborhoods are gentrified and are bought by many times Jewish rich owners or other rich owners, including the Wadi Salib, which is a historical Palestinian neighborhood that is being destroyed and turned into modernized houses by real estate Israeli companies, and changing the nature of the neighborhood, the nature of the houses, and giving to, ironically, Israeli artists. So I think it's very important to say that in general, this is a very used tactic that Israel used, and specifically Haifa is one of the places where coexistence is just a fake lie that doesn't actually impact the deep conditions of Palestinians, and is just a cover for the deep policies of oppression, discrimination, land theft, and house theft that we know.
Israël tente de diffuser une image totalement fausse afin de promouvoir l'idée que Haïfa serait la ville de la coexistence. C'est une tentative pour blanchir, cacher l'oppression, la discrimination et les crimes commis envers les Palestiniens. Historiquement, Haïfa est une ville palestinienne. Sa population a été déplacée par la force en 1948 et aujourd'hui, des années plus tard, les Palestiniens qui ont pu y rester sont poussés vers les quartiers les plus défavorisés, surpeuplés, avec beaucoup de pauvreté et un niveau élevé de criminalité. Les forces importantes de police israélienne dans ces quartiers visent la répression de la communauté et il y a d'importantes persécutions politiques. Un exemple, en mai 2021, il y a eu un soulèvement massif en Palestine, y compris dans de nombreuses villes, dont Haïfa. La police israélienne est intervenue avec une brutalité totale, arrêtant des dizaines de manifestants, dont des enfants. Certains d'entre eux ont été enlevés en pleine rue par des hommes en civil, non identifiés comme policiers. Je parle d'enfants de 13 ans. En tant qu'avocate, j'en ai représenté et je peux témoigner de la grande brutalité qu'ils ont subie. Tout cela a été fait par la police municipale de Haïfa et avec le soutien de la municipalité de la ville. Ainsi, la municipalité tente de créer une ville de coexistence en niant la réalité des conditions de vie des Palestiniens. Ils ne tolèrent que les Palestiniens silencieux face aux oppressions, en particulier politiques. Et lorsque les Palestiniens lèvent la voix, ils répriment, écrasent leurs protestations tout en ne faisant rien pour améliorer leurs conditions de vie économiques, sociales et sur tous les plans. Ceci est à propos de la population dans les quartiers palestiniens, sans parler des habitations et biens que les Palestiniens ont perdus en 1948 au profit des Israéliens. Sans parler de la gentrification accélérée de la ville, avec des familles palestiniennes expulsées de logements qu'elles occupaient depuis des années, au profit de plus riches, juifs ou autres, qui peuvent les acheter. Ainsi, Wadi Salib, un quartier historique qu'ils ont détruit pour en faire des habitations modernes, rénovées par des entreprises immobilières israéliennes, changeant la nature du lieu pour y installer, quelle ironie, des artistes israéliens. Il est important de dire qu'en général, ceci est une tactique fréquemment utilisée par les Israéliens. Haïfa est l'une de ces villes où la coexistence est juste un mensonge, juste une tentative de dissimuler la politique de profonde oppression, de discrimination et de vol d'habitations et de terres. Continuer avec une petite pause musicale et nous reviendrons ensuite avec un article du 10 septembre de Parisien qui nous explique une catastrophe, une vilainie de l'armée israélienne hier dans la bande de Gaza. On continue avec le morceau qui était...
La situation a vite dégénéré, un convoi de l'ONU tenu en joue par l'armée israélienne à Gaza, dénonce un porte-parole.
Le convoi a été retenu durant 7h30 au point de contrôle Al-Rachid, alors qu'il avait toute autorisation, a dénoncé Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il est finalement reparti à sa base, sans mener sa mission.
Un convoi onusien identifié comme tel, devant participer à la campagne de vaccination contre la polio, a été tenu en joue pendant plusieurs heures lundi à Gaza par l'armée israélienne qui a tiré plusieurs fois, a dénoncé mardi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Le convoi de plusieurs agences onusiennes, dont l'Agence pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, a été arrêté par les forces israéliennes au point de contrôle d'Al-Rachid alors qu'il avait toutes les autorisations nécessaires, a assuré Stéphane Dujarric. L'équipe de 12 employés de l'ONU a été informée que les forces israéliennes voulaient interroger deux membres du convoi, a-t-il précisé. La situation a vite dégénéré, les soldats pointant leurs armes directement sur notre personnel dans le convoi, les véhicules de l'ONU ont été encerclés par les forces israéliennes et des coups de feu ont été tirés.
Cela aurait pu tourner à la tragédie.
Des chars israéliens et un bulldozer se sont ensuite approchés, enfonçant les véhicules de l'ONU devant et derrière, compactant le convoi, a ajouté Stéphane Dujarric, notant que les employés ne pouvaient sortir des véhicules en toute sécurité. Le convoi a été maintenu en joue pendant que des hauts responsables de l'ONU contactaient les autorités israéliennes pour tenter une désescalade et après 7h30 au point de contrôle, le convoi est reparti à sa base sans pouvoir mener sa mission humanitaire, a-t-il encore dénoncé. Cela aurait pu tourner à la tragédie, a-t-il insisté. La conduite des forces israéliennes sur le terrain met les vies de notre personnel en danger, a déclaré le porte-parole, déplorant un événement qui est le dernier exemple en date des dangers et entraves inacceptables aux opérations humanitaires dans le territoire palestinien. Fin août, un véhicule du Programme alimentaire mondial avait reçu plusieurs balles à un autre point de contrôle de l'armée israélienne à Gaza. Et ce n'était pas la première fois que des véhicules de l'ONU étaient touchés par des tirs depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre. En mai notamment, un employé de l'ONU de nationalité indienne avait été tué lorsque son véhicule avait été touché.
Thank you.
On vient d'écouter Nasser Shahama, joueur de lutte irakien. Et vous avez entendu ce sonore du Parisien. Oui, l'armée israélienne peut bloquer un convoi de vaccination contre la polio. Et cela en toute impunité, comme l'armée israélienne a pu tuer une citoyenne turco-états-unienne en toute impunité. Et on salue bien évidemment le courage de ces militants internationalistes qui vont en Cisjordanie et aussi à Gaza, ces humanitaires, qui vont porter assistance, essayer de limiter les dégâts, bien modestement. Mais il faut revenir sur cette volonté israélienne d'empêcher l'alimentation avec, ça a été rappelé dans le sonore du Parisien. Rappelons-nous qu'en avril 2024, une frappe de l'armée israélienne, de l'aviation israélienne, sur le convoi de l'organisation Cuisine Centrale Mondiale, qui se dirigeait vers la livraison d'aide humanitaire, a tué 7 des travailleurs et la plupart des organisations apportant de l'aide humanitaire, ainsi que la Cuisine Centrale Mondiale, ont stoppé leurs opérations humanitaires. Il y a eu ensuite ce tir sur le convoi de l'OMS, ce travailleur indien assassiné, et maintenant une attaque directe, frontale, contre ce convoi de l'UNRWA, qui comportait des médecins qui allaient vacciner des enfants contre la polio, puisque vous savez qu'il y a eu des cas de polio, et il y a un petit garçon qui est paralysé maintenant, peut-être d'autres cas, mais en tout cas celui qui nous est parvenu, celui d'un petit garçon qui est paralysé, et on sait très bien les dégâts que peut provoquer une épidémie, en particulier une épidémie de polio, dans une population infantile non vaccinée. Tous les enfants qui sont nés depuis, et il y en a à peu près 50 000 par mois, n'ont pas été vaccinés contre les vaccins que l'on a à la naissance, le détécoque en particulier, et la polio. Donc laisser éclater une épidémie parmi une population infantile mal nourrie, fatiguée, c'est prendre le risque d'en perdre énormément et de créer une population d'enfants paralysés. C'est toujours dans le silence de la communauté internationale que cela se passe. Revenons maintenant sur la deuxième partie de l'émission avec ce bilan. 41 000 victimes recensées dans les hôpitaux, des milliers, près de 20 000 disparus sous les décombres, prisonniers, enlevés, des milliers d'amputés, la faim, la soif, les maladies de peau, la diarrhée, les hépatites, la polio, le stress, la folie, la fatigue et toujours le silence terrifiant de la communauté internationale. L'ONU, silencieuse car muselée par le terrifiant droit de vote imposé par les USA de Genocide Joe et Kyla Biden. La France macroniste et son gouvernement démissionnaire taisent honteusement leur complicité avec les génocidaires. La ville de Marseille et son maire Benoît Payan se moquent éperdument des demandes formulées par les manifestants manifestantes et les associations. Pas de sanction des génocidaires, pas de suspension du jumelage avec la ville de Haïfa. Aucune volonté, même un refus net de jumelage avec la ville martyre de Gaza. C'est dans les urnes que nous sanctionnerons ceux qui refusent de sanctionner le génocide en cours. 2026-2027, nous n'oublierons pas, nous sanctionnerons. Dans un éditorial du 30 mai dernier, Alain Grech, spécialiste du Proche-Orient, et Sarah Grira, rédactrice en chef d'Orient 21, nous parlent de l'impunité d'Israël et la complicité de la France. Trop peu, trop tard. On ne peut qualifier autrement la pudibonderie des mots d'Emmanuel Macron face à la guerre génocidaire qui se poursuit dans la bande de Gaza. Il annonce d'abord un vœu pieux qui sonne bien trop faux. Il faut que les opérations israéliennes cessent à Rafah. Mais contrairement à ce que le président français affirme laconiquement, ce n'est pas aujourd'hui mais depuis plusieurs mois qu'il n'y a plus de zone sûre pour les Palestiniens. Qui se souvient que le président Emmanuel Macron avait déclaré que Rafah constituait une ligne rouge? Ce dernier a fait mine depuis l'Allemagne de tenir ses positions, sur lesquelles pourtant il n'a cessé de reculer à chaque nouvelle violation de la part d'Israël. Droit dans ses bottes, il a rappelé le droit d'Israël à se défendre, comme si le droit international pouvait concevoir que l'on puisse se défendre contre ceux qu'on occupe. Mais surtout, il désigne un seul coupable, le Hamas, est responsable de cette situation. La chutzpa israélienne, c'est-à-dire l'insolence, le culot, s'exporte aussi en hexagone. Soyons clairs, la France officielle est complice de ce qui se passe à Gaza. En justifiant ainsi le génocide en cours, elle a accordé avec les membres de la majorité et souvent ceux de l'opposition de droite et d'extrême droite, mais parfois aussi de gauche, tous les arguments qui servent à blanchir le gouvernement de Benjamin Netanyahou. La France d'Emmanuel Macron n'a pris aucune mesure concrète pour stopper cette offensive. Les sanctions économiques, les mesures symboliques d'invisibilisation du drapeau, le boycott sportif à la veille des Jeux olympiques, la question des armes, tout cela n'est bon que contre la Russie. Face à Tel Aviv, l'imagination fait défaut. À ce jour, la diplomatie française n'a pas cru bon de réagir à l'ordre de la Cour internationale de justice. Il a fallu 4 jours et quelques massacres encore pour que le chef de l'État, et seulement lui, évoque, sans le commenter, l'ordre de la plus haute instance judiciaire internationale, dont les décisions sont contraignantes pour les pays de l'ONU. Pour tous, sauf Israël, qui fait fi du droit international comme humanitaire. Pour tous, sauf ses alliés, comme les États-Unis, mais aussi la France, dont la complicité dans le génocide en cours est accablante. À l'image de l'Élysée, ou plutôt à ses ordres, le Quai d'Orsay n'est plus celui qui, il y a 20 ans, par la voix de son ministre, faisait honneur de la France en s'opposant, dans le siège de l'ONU, à l'invasion américaine de l'Irak, ni celui qui, en 1980, entraînait l'Europe à reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens et à négocier avec l'Organisation de libération de la Palestine, dénoncée alors par Israël et les États-Unis comme organisation terroriste. Le voilà aujourd'hui qui s'enferme, à travers son dernier communiqué, dans des éléments de langage vides de sens. Gravité de la situation. Indignation. À croire que la France n'est plus un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont Paris contribue à torpiller la crédibilité, comme elle l'a fait avec l'UNRWA, suivant le discours israélien. Il faudra plus que quelques appels tardifs, purement déclamatoires, au cessez-le-feu. Il faudra plus que quelques votes aux Nations Unies sur l'admission de la Palestine qui se sont accompagnés d'un refus de reconnaître l'État palestinien. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège n'ont pas eu ces pudeurs. Il faudra plus que le communiqué verbeux du Quai d'Orsay sur la proposition du procureur de la Cour pénale internationale de lancer des mandats contre des dirigeants israéliens et palestiniens, accompagnés de circonvolutions laissant entendre qu'Israël pourrait poursuivre les crimes commis par son armée, rendant inutile de tels mandats, alors même que jamais des militaires de haut rang n'ont été sanctionnés par la justice israélienne depuis des décennies. Et on attend les protestations de Paris face à la campagne menée depuis une décennie pour discréditer la Cour, menacer ses dirigeants, que vient de révéler le journal israélien 972. Le 22 mai, le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, a reçu à Paris Israël Katz, son homologue israélien. Celui-ci est un des rares dirigeants nommés par la Cour internationale de justice comme ayant tenu des propos qui relèvent de l'appel au génocide. Le 13 octobre 2023, Israël Katz avait en effet déclaré sur X, sur Twitter à l'époque, « Nous allons combattre l'organisation terroriste Hamas et la détruire. Toute la population civile de Gaza a reçu l'ordre de partir immédiatement. Nous vaincrons. Ils ne recevront pas une goutte d'eau, ni une seule pile, jusqu'à ce qu'ils quittent le monde. » Katz a remercié son homologue français pour son opposition à la reconnaissance d'un État palestinien et pour son refus de mettre sur le même plan le Hamas et Israël, comme l'a fait le procureur de la Cour pénale internationale. Cette réception chaleureuse se passait au moment même où Israël intensifiait ses massacres à Gaza, et spécialement à Rafah. Que peut faire la France pour faire pression sur Israël afin qu'il arrête ses opérations dans la bande de Gaza? Alors que 35% des exportations israéliennes sont destinées à l'Europe, ce levier économique n'est même pas agité. Pas plus que l'arrêt des livraisons d'armes, de composants de fabrication, dont les chiffres d'exportation par la France restent flous, ou de munitions. Pas la moindre velléité non plus de faire respecter le droit international. En sanctionnant les entreprises françaises qui, comme Carrefour ou Alstom, sont présentes dans les territoires occupés. Tel Aviv demeure également un partenaire sécuritaire de Paris, que ce soit pour les caméras de surveillance munies de logiciels de reconnaissance faciale qui seront utilisés pour les JO, aujourd'hui on peut dire qui ont été utilisés pour les JO, ou pour la fabrication des drones de surveillance, notamment utilisés dans le contrôle de la frontière sud de l'Europe. Au niveau de l'Union européenne, Paris s'oppose à ceux qui veulent suspendre les accords d'association avec Israël, alors que chez les voisins de Wallonie, on interdit désormais aux avions transportant des armes pour Israël de transiter par l'aéroport de Liège. Et quand les étudiants de Sciences Po, de l'École normale supérieure ou de l'École des hautes études en sciences sociales occupent pacifiquement les locaux de leurs institutions pour demander la suspension d'accords de coopération, les universités israéliennes souvent liées à l'industrie de défense et d'armement, ils et elles sont virés manu militari, accusés à tort d'antisémitisme et de mettre leur établissement à feu et à sang. Or, seules des mesures concrètes qui feraient payer à Israël le prix de son aventure sont capables d'infléchir la stratégie de massacre de son armée. Désormais, la France est à l'arrière-garde des pays européens dans le soutien au droit international et aux droits des Palestiniens. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide fait obligation à tous les États signataires de prendre des mesures pour prévenir un génocide en cours, même quand celui-ci ne se déroule pas sur leur territoire. En s'y refusant, la France, pays signataire, s'expose à être poursuivie pour ses manquements. Or, elle y oppose un axiome qui tente lâchement d'instrumentaliser le sentiment de culpabilité historique face à la Shoah. Accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Il faut mesurer ce qu'est devenu la France, l'image de la France dans les pays du Sud. Il faut voir l'ambassade française caillassée à Beyrouth, entendre les cris de colère des manifestants devant l'Institut français de Tunis, réaliser la déception des Palestiniens jadis si promptes à rendre hommage au pays de De Gaulle et de Jacques Chirac. Sur le plan intérieur, le gouffre se creuse chaque jour davantage entre le discours officiel et une partie de la population qui, horrifiée par ce chèque en blanc donné à Israël, se précipite dans les rues pour crier son désespoir et son désarroi. C'était donc l'article de Alain Grech et de Sarah Gréra, un article vieux de quatre mois, et qui n'a jamais été autant d'actualité, d'autant que nous attendons maintenant la réaction de la France, de M. Séjourné, ministre démissionnaire démissionné, ou puisqu'il n'y a pas de nouveau ministre nommé encore, pour dénoncer, ainsi que le discours du président ne marquera pas de le faire, ce que l'armée israélienne vient de faire à Gaza en attaquant le convoi de l'UNRWA qui allait vacciner les enfants palestiniens. Une pause musicale et on revient pour une heure en Palestine. On revient à la Méditerranée, on revient au grand port de Marseille, à ces navires qui arrivent, qui repartent. Avec ce texte, les experts juridiques internationaux avertissent les États. Le transit de carburant militaire vers Israël par les navires Overseas, Santorini et Suncoast enfreint le droit international. Objet, obligation juridique internationale des États relevant au transit de carburant militaire vers Israël à bord de navires Overseas Santorini et Overseas Suncoast. Nous écrivons en tant que groupe de praticiens du droit, d'universitaires et d'analystes pour exprimer notre inquiétude face au transit continu de carburant militaire à destination d'Israël à bord des navires, de ces navires, en violation des obligations juridiques internationales des États. Le carburant militaire fourni par la compagnie pétrolière Valero pour le compte du gouvernement américain est transporté de Corpus Christi, au Texas, au port d'Ashkelon, en Israël. Ce carburant comprend le kérosène et le JP-8, utilisés pour les avions de combat F-16 et F-35 de l'armée de l'air israélienne, entre autres. Ces cargaisons sont transportées par des navires citernes Overseas Santorini et Overseas Suncoast tous les deux mois. Depuis des années, ces navires transitent par les eaux territoriales d'États situés dans le golfe du Mexique et en Méditerranée, habituellement à quai au pôle d'Algésira, en Espagne, et font également escale à Limassol, Chypre, avant d'arriver à destination à Ashkelon, en Israël. Au 2 août 2024, l'Overseas Santorini traverse la mer Méditerranée en direction d'Israël et est estimée à 300 000 barils de carburant militaire pour avions de chasse en Israël. Au cours de ce voyage, le navire a d'abord tenté d'accoster à Algeciras en Espagne et à Gibraltar, mais n'a pas réussi après avoir subi des pressions importantes du public, des politiques et des médias à interdire au navire de s'amarrer dans un ou l'autre de ses ports. Il a depuis éteint son système de suivi, AIS, mais les images satellites confirment qu'il se dirige vers l'est, en direction d'Israël. L'Overseas Suncoast a récemment quitté Israël et se trouve actuellement dans la mer des Baléares, sur la côte est de l'Espagne, bien que sa prochaine escale ne soit pas encore connue. Pour des raisons énoncées dans la présente, nous soutenons que permettre à ces navires de livrer du carburant militaire à Israël en ce moment, soit en leur permettant de transiter par les eaux territoriales des États, soit en les approvisionnant dans les ports relevant de la juridiction des États, constituerait une violation des obligations juridiques internationales de ces États. Dans sa décision sur les conséquences juridiques de l'occupation israélienne de la Palestine, la Cour internationale de justice a souligné le caractère structurel, systémique et grave des violations commises par Israël en Palestine occupée. En effet, la Cour a demandé aux États de s'abstenir de toute transaction économique qui pourrait enraciner sa présence, la présence illégale israélienne, sur le territoire occupé. Prendre des mesures pour empêcher des relations commerciales ou d'investissement qui contribuent au maintien de la situation illégale créée par Israël dans les territoires palestiniens occupés et de ne pas fournir d'aide ou assistance pour maintenir la situation créée par la présence illégale israélienne dans les territoires palestiniens occupés, parmi d'autres obligations. Cette décision fait écho à plusieurs des conclusions de l'avis de la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques de la construction d'un mur dans les territoires palestiniens occupés. Le 30 juillet 2024, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont fait remarquer que l'avis de la Cour internationale de justice, réaffirme les normes impératives interdiction l'annexion, les colonies, la ségrégation raciale et l'apartheid, mais devait être considéré comme déclaratoire et contraignant pour Israël et tous les États qui soutiennent l'occupation, et que les États doivent immédiatement revoir tous les liens diplomatiques, politiques et économiques avec Israël, y compris les relations commerciales et financières, les fonds de pension, le milieu universitaire et les organismes de bienfaisance. Cette décision doit être lue conjointement avec les mesures provisoires prises en vertu de la Convention sur le génocide de 1948 dans le cas de l'Afrique du Sud contre Israël, devant la Cour internationale de justice. Vous vous souvenez de cette décision qui a eu lieu au mois de janvier ou février, qui engage le devoir d'État de prévenir le génocide. Cette obligation impose aux États l'obligation positive de prendre toutes les mesures qui leur incombent pour protéger la population à risque. En outre, cette décision met les États sur la liste des pays qui pourraient être complices d'un génocide par des actes matériels de soutien à l'État auteur. Ces fonctions sont étayées par de nombreux arguments présentés par des avocats, des militants et des fonctionnaires de l'ONU. Outre le devoir de prévenir le génocide, les États tiers ont obligation de ne pas fournir d'assistance à d'autres crimes internationaux. La demande de mandat d'arrêt du bureau du procureur de la Cour pénale internationale indique que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis et sont en train d'être commis par le biais de bombardements aériens à Gaza. En ce qui concerne le carburant pour avions, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution en avril 2024 après un vote par les États membres appelant à un embargo sur les armes et déclarant, exprimant sa profonde préoccupation que la vente, le détournement et les transferts d'armes et de carburant augmentent la capacité d'Israël, la puissance occupante, à commettre des violations graves, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, méconnaître le droit international et porter gravement atteinte à la jouissance des droits de l'homme. Et a appelé les États à cesser la vente, le transfert et le détournement d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires à Israël, puissance occupante, afin d'empêcher de nouvelles violations du droit international humanitaire, ainsi que des violations et des atteintes aux droits humains, et de s'abstenir, conformément aux normes et standards internationaux, d'exporter, de vendre ou de transférer des biens et technologies de surveillance et des armes moins létales, y compris des articles à double usage, lorsqu'ils estiment qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces biens, les technologies ou les armes pourraient être utilisés pour violer ou abuser des droits de la personne. Le carburant militaire fourni par l'Overseas Santorini et l'Overseas Suncoast est spécialement conçu pour être utilisé dans les avions de guerre. Le ravitaillement de ces navires dans les ports ou la facilitation du transit par tout État à travers ses eaux territoriales vers Israël, qui est en train de perpétrer une occupation illégale et un génocide plausible, impliquerait l'État facilitateur dans ces graves illégalités, contrevenir à l'obligation internationale de l'État de coopérer pour mettre fin aux violations graves du droit international et prévenir le génocide, ainsi que de saper l'obligation de non-reconnaissance de l'occupation illégale par Israël du territoire palestinien. Alors, ce texte fait des recommandations. Conformément à ces obligations juridiques, nous recommandons que les États refusent la permission à l'un ou l'autre de ces navires de transiter dans les eaux territoriales des États et de les placer dans des ports relevant de leur juridiction. Le fait de ne pas le faire pourrait constituer une violation des obligations juridiques internationales et une complicité dans les violations du droit international commises par Israël. Alors, je ne vais pas vous citer toute la liste des éminents juristes qui ont signé, juste quelques noms, par exemple, Dylan Asafo, Senior Lecturer, University of Auckland, Dr. Rhiannon Bandiera, spécialiste en criminologie, co-directeur du Centre de recherche de justice internationale. Il est juriste à Maynooth University. Sozam Bardet a tourné en Afrique du Sud. Le professeur Lucia Dimitriou à l'université Frédéric à Chypre. Olaf Hahn, avocate en Norvège. Le professeur Jeroen Gunning au King's College de Londres. Dr. Lisa Tilley, senior lecturer à l'Université de Londres, et Anne Wright, retraitée de, qui était colonel dans l'armée des États-Unis et qui fut diplomate des États-Unis. Voilà, il y a une trentaine, et cet appel est à la signature de bien d'autres personnes, donc on peut imaginer que d'autres viendront ajouter leur nom, d'autres juristes viendront ajouter leur nom, on va suivre ça. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ça ? Pourquoi nous avons voulu vous parler de cela ? Eh bien, c'est parce que ce bateau a fait escale dans le port de La Vera. Il y a eu des interventions de nos camarades de Martigues, de Marseille. Donc, j'ai cité le collectif Solidarité Palestine de Martigues-Ouest-Étang-de-Berre, mais aussi Stop Arming Israël et bien sûr Urgence Palestine-Marseille, avec le soutien d'autres organisations qui sont allées prendre des photos, etc. Il y a même eu des photographes qui ont été arrêtés et placés pas en rétention, mais en, comment dit-on, assignés dans un commissariat pendant quelques heures. Voilà. On va envoyer ce courrier à M. Castaner pour lui rappeler les obligations qui sont faites, mais aussi on va le faire remonter au ministère et puis à la préfecture de Marseille. Et puis on vous tiendra au courant de ce qui se passera. Voilà, on fait une pause musicale.
على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
أنا دمي فلسطيني
Voilà, c'était Mohamed Assaf, mon sang est palestinien. Mohamed Assaf qui avait gagné le concours Arab Idol il y a plusieurs années et qui est palestinien de Gaza. Quelques informations qui vont nous inciter encore plus à maintenir la pression et à lancer la campagne de boycott. Carrefour a retiré les produits de la marque de ses anciennes franchisées présentes dans les colonies israéliennes. Selon plusieurs ONG et syndicats, il s'agit d'une avancée positive, mais Carrefour reste impliqué dans la colonisation via ses magasins franchisés dans les colonies et les partenaires de son accord de franchise. Le groupe Carrefour a retiré de ses magasins, donc des magasins de son franchisé Yenot Bitan, situé dans les colonies israéliennes, les produits de sa marque, mais l'accord avec cette entreprise reste toujours en cours. Elle se réfère en... Ces ONG qui mènent le boycott se réfèrent à un avis de la Cour internationale de justice de juillet qui recommande aux États et aux entreprises de ne pas soutenir les colonies israéliennes, soulignant l'obligation des entreprises de respecter les droits de l'homme et de ne pas soutenir la colonisation. Une autre information, selon le ministère palestinien de la Santé, rapport statistique quotidien sur le nombre de martyrs et de blessés à la suite de l'agression israélienne en cours contre Gaza pour le 341e jour. L'armée génocidaire a commis 4 massacres contre les familles à Gaza, faisant 64 martyrs et 104 blessés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures. Il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres, sous le sable et sur les routes. Les ambulanciers et les équipes de défense civile ne peuvent pas les atteindre et les secourir, ils n'ont pas encore atteint les hôpitaux. Le bilan de l'agression israélienne s'élève à 41 084 martyrs et 95 029 blessés depuis le 7 octobre de l'année dernière. Rappelons que la sommité médicale, ce magazine, le Lancet, ce magazine britannique, qui est de notoriété mondiale, avait annoncé il y a quelques semaines que si les massacres s'arrêtaient à ce moment-là, il y aurait en bilan final près de 187 000 victimes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y aurait près de 200 000 victimes. Et en comptant tous les décès collatéraux, c'est-à-dire que comme on le sait, les dialyses ne fonctionnent plus, les traitements contre le cancer ne fonctionnent plus, les diabétiques n'ont plus leur traitement, plus personne n'est soigné dans la bande de Gaza, la famine monte. Il y avait tout un article qui s'appelle « L'industrie de la famine, Israël commet le crime de guerre de la famine dans la bande de Gaza ». Nous en parlerons lors de la prochaine émission que nous animerons. Mais pour le moment, on vous dit au revoir, l'heure en Palestine se termine. On vous dit au revoir, on laisse la place pour l'émission suivante et on dit surtout un grand merci à Sidi et on fait un coup de chapeau à notre camarade disparu, Étienne Bastide. À bientôt.